manger des promesses, pays du futur, mais rien ne presse. Elle a un peu les pieds dans l'inflation, qui bat des records, nous dit-on. Ils sont très lucides et cultivés, mais les portaillons sont fatigués. Alors Chabon, n'oublie pas, ici on n'embrasse qu'une fois. Ils sont chaleureux, cultivés,
mais les porteños sont fatigués. Mais les porteños sont fatigués.
Par les temps qui courent, investisseurs ne sont plus beaucoup à faire des fleurs. Et quand il n'y a plus rien à raqueter, il te reste tes yeux. Terminer les rêves d'argenter, c'est pour les poètes et pour la rime. Dans nos dollars les a usés, oui les porteños sont épuisés.
Bonsoir, c'est Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Yves au micro, ce soir c'est une émission enregistrée, alors inutile d'appeler. Vous pouvez comme d'habitude m'envoyer un mail à dk51@sfr.fr. Vous pouvez vous connecter sur le site de la radio, radiolibertaire.org. N'oubliez pas de télécharger la souscription, nous avons besoin de votre aide pour renouveler le matériel, pour maintenir une radio de qualité. Vous pouvez et vous devez consulter ma page Facebook, vous avez également la possibilité de réécouter l'émission en podcast pendant 12 mois après la fin de la diffusion. N'oubliez pas d'aller sur le site de la radio où l'agenda est mis à jour régulièrement avec l'ensemble des émissions, dont la mienne. Et de consulter ma page Facebook Yves Jazz Libre, je pense vous l'avoir dit, et de temps en temps ma page Insta Jazz Libre l'émission, mais c'est assez plus rare. Si vous avez besoin d'infos, de playlists, d'informations concernant l'émission ou d'autres choses concernant le jazz, vous pouvez m'envoyer un mail à dk51@sfr.fr. Alors ce soir, c'est une émission un petit peu particulière. La dernière de l'année, je pensais vous faire part des nouveautés, mais le pianiste Michel Sardabi nous a quittés le 6 décembre dernier, et il se trouve, bon, et là c'est assez personnel, qu'il a été mon prof de piano pendant quelques années, et donc je voulais lui rendre hommage ce soir, donc vous allez me dire c'est encore une nécro, malheureusement. Donc il avait 88 ans, bon il avait eu quelques problèmes de santé, et donc voilà, je voulais en parler depuis fort longtemps, je vous en parlais de temps en temps, mais bon là il se trouve que c'est malheureusement l'occasion de se réapproprier un petit peu sa musique, et disons... remettre en place un musicien qui n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Certes, il s'est beaucoup consacré à l'enseignement. Ça a été vraiment quelque chose chez lui de très important de communiquer, de transmettre son savoir. Mais malheureusement, il a été relativement connu et ce petit heure de gloire dans les années 70-80. Et puis petit à petit, ça s'est pas mal atténué, voire même un peu disparu des radars. Et c'est bien dommage. Et nous allons reprendre un petit peu l'ensemble de sa carrière. et de sa parution, de sa discographie, pardon, qui est relativement faible, mais néanmoins, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, et nous allons voir ça plus en détail. Alors, trêve de blabla, nous allons commencer, avant d'aller plus loin dans sa biographie, par écouter de la musique, voilà, tout simplement. Alors là, il s'agit d'un disque qui est sorti plus tard, mais qui a été enregistré en 1964. En fait, ton premier disque était Nightcap, mais celui-ci s'appelle Con Alma. Il est avec Michel Finet à la contrebasse et Philippe Combel à la batterie. Et alors, je n'ai pas réussi à savoir qui était le percussionniste, parce qu'il y a un percussionniste dans ce thème, dans ce disque, pardon, qui est donc été enregistré en 1964, mais qui est sorti dans les années 90 et a priori uniquement au Japon. Donc voilà, tout ça vaut cassette, hein, comme on dit. Et le thème que nous allons écouter s'appelle Little Sister. Et donc on voit déjà dans 1964 que Michel a un style. Comparaison n'est pas raison, mais on est quand même quelque part entre Hank Jones, Wynton Kelly, un peu d'Oscar Peterson. Enfin voilà, c'est un pianiste qui déjà est dans une totale maîtrise de son sujet. Post-bebop, il n'y a vraiment aucun souci, c'est parfaitement réalisé. Et le son a été très bien repris du pressage français, mais paru chez les Japonais. Voilà, c'est parti.
Thank you.
Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Michel était né à Fort-de-France, en Martinique, donc le 4 septembre 1935, et donc il nous a quittés le 6 décembre dernier. Il était issu d'une famille de nombreux enfants, et il a été tout de suite mis au piano dès l'âge de 4 ans par son père. Alors c'est vrai qu'il me parlait très très souvent de son père, c'est quelqu'un qui avait une influence considérable sur Michel. Il y avait d'ailleurs son piano, ce Pleyel qu'il avait fait ramener de Martinique. Et il arrive à Paris en 54, date de ma naissance, et il suit des cours à l'école Boulle. Alors on avait un peu ce côté en commun des arts appliqués, et lui plus sur l'aspect architecture intérieure. Et il va faire toute une carrière parallèle de musicien. Il avait déjà dirigé pas mal d'orchestres aux Antilles, et en fait il va aller dans les clubs en France, où il va rencontrer ses compatriotes des Antilles, avec Robert Mavunzi à Lierva, et puis il va accompagner des musiciens américains aussi prestigieux que Don Byas, Dexter Gordon, Al Singer, J.J. Johnson et évidemment aussi Kenny Clarke. D'ailleurs, il y a une vidéo complète d'un concert au Festival d'Antibes avec Kenny Clarke. Et il a également enregistré avec T-Bone Walker, le bluesman. Et il avait fait aussi un disque, alors ça j'ai du mal à le trouver, qui était une longue suite dédiée à Billy Strayhorn qui était en train de mourir à New York. Et c'était un disque qui avait été supervisé par Duke lui-même, donc voilà, hein, quand même c'est assez important. Donc nous allons écouter un album, je vous en dirai un petit peu plus après, qui s'appelle Five Cat Blues. Alors, assez curieux, celui-ci a été enregistré en 1967, en octobre 67, au Centre culturel américain à Paris. Et il y a Pierre Dutour à la trompette, Alain Hatto au ténor, Henri Tichitz à la contrebasse et Michel Denis à la batterie. Alors, je sais que pour ceux qui ont travaillé avec lui, que Michel était très très critique par rapport aux musiciens français. Et moi, quand je l'ai rencontré, enfin quand j'ai commencé à travailler avec lui, étudier avec lui, pardon, il ne jurait que par les musiciens américains. Voilà, je pense que ensuite ça s'est un petit peu changé ou modifié pour aller plus vers le positif, car c'était un homme très positif. Voilà, donc on va écouter le titre éponyme de cet album qui s'appelle Five Cats Blues. Et donc, c'est parti. Thank you. Libre Radio Libertaire. Donc, on voit qu'on est, avec ce titre Five Cat Blues, comme dans une esthétique assez proche des Jazz Messengers. Hein, c'est vraiment l'esprit du quintet. Et donc, il va enregistrer ensuite un album qui est en fait considéré comme le premier, mais avec la section rythmique du Modern Jazz Quartet, le MJQ pour les intimes, qui était avec John Lewis au piano. Et là, il y a donc Percy If et Connie Kay. Percy If à la contrebasse, il y a les trois frères If étaient tous musiciens et célèbres, et Connie Kay à la batterie. L'album s'appelle Nightcap, qui est sorti en 1970, je crois que c'était enregistré en 69, il me semble, si mes souvenirs sont bons, et nous allons écouter un titre de Duke Ellington qui s'appelle Satin Doll. Il faut savoir que pratiquement dans tous les albums, ou presque, Michel a toujours joué un thème de Duke Ellington, évidemment. Je reprends toujours cette phrase absolument géniale de Miles Davis qui disait qu'un jour, il faudrait que tous les jazzmen se mettent à genoux et remercient Duke Ellington. Et oui, Duke Ellington est peut-être un des plus grands, si ce n'est le plus grand génie du jazz, quoi. Et en plus, il a connu ses débuts jusque ses derniers avatars avec le jazz rock. Il a enregistré avec Coltrane, avec Mingus. Enfin voilà. Donc, je pense que tout le monde doit rendre hommage à Duke Ellington et Michel ne se gênait pas et à juste titre pour le faire. Voilà, c'est parti pour Satin Doll. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Alors, dans sa discographie, il manque pas mal de choses, parce que dans celle qu'on trouve ici, à peu près 11 ou 12 albums, et en fait, il y en a un petit peu plus, puisque certains sont parus enregistrés au Japon et jamais parus en France. Voilà, alors juste quelques indications. Il a eu, et nous l'écouterons tout à l'heure, le prix Boris Vian en 1974 pour son album Gale, nous le verrons. Il a enregistré avec beaucoup de musiciens, avec donc Percy Yves Koniké, là, vous avez entendu, Richard Davis, Billy Cobham, Ray Barreto, Marvin Smith, Ralph Moore, Louis Smith, Peter Washington, Tony Ridus, qui ont fait un disque d'ailleurs, j'ai été au concert de l'enregistrement. Michel était assez peu satisfait d'ailleurs. Alors parlons un petit peu de Michel d'un point de vue personnel, comme moi je l'ai rencontré, mais c'est à concorde à peu près avec tous ceux que je connais qui ont pris des cours avec lui. C'était quelqu'un de très exigeant, c'était quelqu'un de très très gentil. Très humain, il aimait beaucoup les gens, ce qui me différenciait de lui, parce que moi j'étais pas aussi optimiste. Il aimait beaucoup enseigner, c'était vraiment un travail qu'il considérait comme vraiment une transmission au-delà de la musique. D'ailleurs, ses cours étaient dans une approche assez différente. Moi, j'avoue que, à titre personnel, je pense que j'étais un peu trop jeune pour avoir compris peut-être le message spiritualiste qu'il y avait derrière son enseignement. Et je pense que c'était vraiment quelque chose que je n'ai pas complètement perçu à l'époque. Mais enfin, il avait cette approche sur la gestion du physique, sur la gestion du mental, enfin quelque chose qui était assez étonnant. Il était très soucieux de la génération du son. Il avait une sensibilité très particulière sur son jeu, hein, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui aussi se rapproche des musiciens antillais ou d'origine antillaise comme Wynton Kelly, Monty Alexander, avec qui il va faire un duo. Voilà, il y a cette approche du tempo aussi qui était très très particulière, qu'on retrouve évidemment avec Alain Jean-Marie. Donc quelque chose qui est ancré dans une tradition du bebop, Oscar Peterson, Hank Jones, Wynton Kelly, je l'ai dit. Alors, à l'époque, moi, j'étais très très branché sur Bill Evans, et puis c'est très curieux parce que, comme Fred Hirsch, il avait un peu la même réflexion, en disant oui, mais Bill Evans, il a cherché. Enfin voilà, c'était pas un admirateur de. Il aimait bien évidemment tout le monde, mais je pense que c'était pas son préféré. À mon avis, il me l'a dit, que celui qu'il considérait à l'époque comme le meilleur, c'était Herbie Hancock. Bon, évidemment, c'est un choix difficile. Et Herbie étant un pur génie, j'aurais du mal à le contredire. Donc voilà, c'est un peu. Donc voilà, on avait ces rapports, bon, très très chaleureux. Je pense que tous ceux qui sont passés avec lui, y compris, oui, parce qu'il faut dire qu'il enseignait le piano, mais il enseignait aussi à d'autres musiciens, d'autres instrumentistes qui venaient, des chanteurs, des chanteuses connues, je ne citerai pas de nom, des pianistes évidemment aussi connus. Ils étaient d'ailleurs là, présents à ses obsèques. D'autres musiciens, il avait même fait l'acquisition d'une contrebasse pour qu'il puisse jouer en accompagnement, voilà, et c'était tout à fait. C'est d'ailleurs ce que me disait Gilles Naturel, le contrebassiste qui était venu à la radio pour son contrapuntique ensemble. Il disait qu'il avait fait l'acquisition d'une contrebasse pour pouvoir jouer ensemble. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'élèves connus. Certains sont devenus très célèbres. Pas moins. Toutefois, j'espère, s'il m'écoute là-haut, qu'il est quand même assez fier de moi, au moins sur le fait de diffuser cette musique que nous aimons tant, qui est aussi de ma part une sorte de travail pédagogique très modeste, hein, mais de faire aimer cette musique, c'est pas forcément très simple, c'est pas quelque chose qu'on acquiert facilement. C'est une musique compliquée, complexe, initiatique, on a besoin de rentrer dedans de manière progressive, et c'est ce que j'essaye de faire depuis 13 ans, et voilà, et d'une certaine manière, Je rends hommage aussi à tous ceux qui m'ont, moi aussi, fait grandir dans cette musique. Je pense évidemment à Michel, mais à Lucien Malson, Alain Gerber, tous ces gens de radio et de plume, aussi bien les Américains comme Leonard Feather, etc., etc., qui font que mon émission s'inscrit un peu dans cette, très très modestement, dans cette verve, dans cette veine, pardon, pédagogique. Voilà. Et donc, nous allons continuer avec un autre album. Donc, un album qui s'appelle Blue Sunset, qui a été. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai un. Oui, qui est, avec Gilbert Rovère à la contrebasse et toujours Philippe Combelle à la batterie. Il est à noter qu'il y avait des notes comment dire, des textes écrits par Maurice Kulaz et Mike Hennessy, hein, quand même. Donc voilà. Donc cet album Blue Sun date aussi de 1970 et le thème que nous allons écouter s'appelle Come From Nowhere, c'est-à-dire venu de nulle part. Thank you. Jazzlib, Radio Libertaire 89.4. J'ai dit une bêtise, c'est pas venu de nulle part, mais vient de nulle part. Bon, voilà, c'est corrigé. Donc, nous allons maintenant écouter un autre extrait d'un album qui s'appelle In New York, qu'il a enregistré donc à New York, comme son nom l'indique, avec le contrebassiste Richard Davis, et voilà, hein, quand même, pas n'importe qui, Billy Cobham à la batterie et Ray Barretto au conga. Et le thème s'appelle Martinica. Alors, évidemment, je pense que c'est un hommage évident à son pays de naissance, hein, la Martinique. Et oui, je reviens un tout petit peu sur cette notion du rythme. Il avait dans son enseignement une manière de nous faire comprendre comment fonctionnait le tempo du jazz. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il enseignait aussi à des musiciens, à des pianistes classiques, qui avaient du mal à gérer un peu la partition, la fluidité. Voilà. Il y a d'ailleurs un petit reportage sur YouTube en noir et blanc, je crois, de FR3 de l'époque, où il y a un petit reportage où on voit chercher sa baguette et donner quelques conseils à une violoncelliste, notamment sur la manière d'attaquer le son et de le finir. Et donc, il avait des images assez parlantes sur le tempo. Il disait, par exemple, tu fais tourner au-dessus de ta tête une sorte de fil à plomb virtuel, et il suffit juste de mettre un tout petit peu d'énergie pour conserver le tempo. C'est-à-dire, en fait, on fait tourner le fil à plomb au-dessus de sa tête comme des pales d'hélicoptère, et en mettant juste un tout petit peu d'énergie, on avait le tempo. Et puis, bon, voilà, c'est cette fameuse accentuation du deuxième et du quatrième temps sur le binaire, enfin, de considérer que le jazz était une musique qu'on dit terno-binaire. Plus cette sensibilité particulière que, c'est vrai, hein, les musiciens antillais avec ce tempo up un peu. Hein. Moi, je peux en parler parce que je joue de temps en temps avec un bassiste antillais. C'est très, très particulier. Ça peut être même parfois un peu perturbant, ce tempo comme ça en avant. Et puis, il avait une attaque du son à la fois très puissante, et en même temps il pouvait moduler jusqu'au plus piano, hein. D'ailleurs, c'est le thème piano et pianissimo, jusqu'à forte, hein, piano forte, c'est comme ça que ça s'appelle, on peut jouer doucement ou avec puissance. Et donc lui, il utilisait toute cette amplitude de son, de cette sensibilité, et il était très, très exigeant aussi sur les ballades. Il estimait que les ballades étaient des choses importantes dans le jazz et qu'il fallait absolument pas s'en passer. Et que c'était, à mon avis, il avait raison. Je crois que là-dessus, on était d'accord. C'est, à mon avis, ce qu'il y a de plus difficile à jouer. Voilà, donc là, on va écouter quand même Martinica. C'est parti. Thank you. Jazz Libre Radio Libertaire 89.4. Alors l'extrait de l'album qu'on vient d'écouter date de 72. Et maintenant nous allons écouter l'album de 1975 qui s'appelle Gail, je pense que c'est un prénom féminin, qui a été nommé en... Alors c'est 75 ou 74, mais il me semble que c'est plutôt 74, et qui a été... Prix Boris Vian, voilà, donc c'est quand même assez important. Et donc, il est accompagné par Richard Davis, toujours à la contrebasse, Billy Hart, l'excellent Billy Hart à la batterie, et Leopoldo Fleming, je suppose, aux percussions. Donc, je vais peu parler cette fois-ci, parce que après, la musique parle d'elle-même, et nous allons écouter un thème qui s'appelle « Welcome New Warmth », Bienvenue Nouvelle Chaleur, je ne sais pas trop ce qu'il voulait exprimer là-dessus, mais bon, c'est le mystère de la création, comme on dit. Hein. Voilà, c'est parti. Thank you. Radio Libertaire 89.4. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce disque, Gaël, qui a obtenu le prix Boris Vian, il joue du piano électrique, pas sur toutes les plages, mais il joue du piano électrique. Je pense que c'est la dernière fois qu'il en a joué. Et curieusement, ça me fait un peu penser à la manière dont avait Hampton Oz de se servir du piano électrique. Je pense qu'il y a aussi un peu cette filiation, pas du tout comme Bill Evans pouvait l'utiliser, par exemple, mais plutôt de l'esprit Hampton Oz, c'est-à-dire très bluesy. Hein, Michel est quand même extrêmement empli de blues. Hein, c'est tout, dans toute sa musique, ça respire. Quoi. Et bon, et à chaque fois, il me disait, sans le blues, le jazz, ça n'existe pas. Quoi, un peu comme Jacques Vidal me le dit. Voilà. Donc, nous allons maintenant écouter. Alors, il est l'album date de 1974. Et il va attendre quasiment 10 ans pour refaire un autre album, là en duo avec Ron Carter. Donc c'est un album qui s'appelle Voyage, qui a été enregistré au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, le 28 mars et le 18 mai 84. Et donc il y a toute une partie en piano solo et une partie en duo avec Ron Carter. Et donc nous allons écouter deux thèmes coup sur coup, un de Miles Davis qui s'appelle Solar et évidemment un de Parker qui s'appelle Relaxing at Camarillo, où on va voir à la fois une épure et en même temps une complicité entre les deux. D'ailleurs, il y a dans les deux albums qui ont été parus chez au label Harmonic Record, c'est Patrice Blanc-Franc, pardonnez-moi, qui a fait les notes de pochette et voilà, il était Blanc-Francard très, enfin il est très amoureux du jazz. D'ailleurs, il a fait un dictionnaire amoureux du jazz. Voilà. Donc nous allons écouter coup sur coup ces deux thèmes. C'est parti.